Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, Olivier, John et moi-même sommes très heureux de réentendre le jingle emprunté au groupe Baba Yaga après ces très longues vacances. Nous avions en effet hâte de vous raconter de nouvelles histoires. Celle qui va introduire cette émission a été écrite par Philippe Leroyer. Cet auteur nous a proposé son texte après avoir découvert Les Refusés, mentionné dans un livre de nouvelles de Benoît Fourchard. Conquis par son écriture, nous l'avons publié dans notre dernier ouvrage et je vous invite maintenant à écouter cette nouvelle intitulée « Fierté ».
Ça m'est arrivé d'un coup, comme ça, paf, un beau matin, comme on dit, elle était là. Impossible de la rater, pas de signe avant-coureur, aucune démangeaison qui aurait pu laisser imaginer qu'il se préparait là, sous ma peau, quelque chose. Nul renflement, pas le moindre bouton. C'est lorsque j'ai voulu me passer un peu d'eau sur la figure après le lever, histoire de me réveiller, que je m'en suis aperçu. Ah, une moustache.
J'aurais pu la couper, la raser, mais bon, vous savez ce que c'est, la flemme, tout ça. À la boulangerie, la patronne l'a tout de suite remarqué. Normal, c'était flagrant comme le nez au milieu de la figure, en quelque sorte.
Ça vous va bien ?
Moi, flatté, évidemment. Vous vous trouvez ?
Oui, ça vous donne un petit air, comment dire, ça vous pose son homme.
A compléter Madame Lecornu qui, jusqu'à présent, ne me calculait pas comme disent les jeunes aujourd'hui. J'étais pas peu fier. Cette moustache m'était venue sans que j'y sois pour quelque chose. Mais voilà, on est fier de ce qu'on peut. Même si on n'a rien fait pour le mériter. C'est comme ça. Papa me le disait quand j'étais petit. Tu dois être fier d'être français. Mais je ne voyais pas pourquoi. Mais c'était mon papa. Après tout, il devait avoir raison. Alors à l'école, je le claironnais. Et pif, paf, ça partait en sucette. Les bronzés, ils n'aimaient pas ça. Évidemment, c'était pas leur faute. Si leurs parents étaient nés ailleurs, il fallait pas qu'ils la ramènent. La fierté, c'est pour ceux qui sont nés là où il faut. Voilà pour mon éducation. Il a fallu que je me détartre le ciboulot pour échapper à l'atavisme.
En sortant de la boulangerie, je sais pas comment ça m'est venu, je me suis mis à bomber le torse. Moi qui avais plutôt tendance à courber les chines, rapport à la vie qui avait pas été tendre avec moi. La fierté, c'est dur à conserver quand votre boîte vous jette après 30 ans de bons et loyaux services. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'à l'autre bout du monde, il y a des trains de misère qui marnent pour trois fois rien. Avec les syndicats, on a eu beau crier à la concurrence déloyale jusqu'à en perdre la voix, mais allez donc lutter contre la mondialisation, non. Il n'y a pas eu que la boulangère pour trouver que ça me changeait la mise, hein.
Ça, c'est de la moustache, monsieur Legendre.
M'a lancé le gérant du tabac, presse, épicerie, bureau de poste.
Mais à votre place, j'enlèverai la casquette. Pas qu'elle vous aille mal, hein, sauf votre respect, mais le front bien dégagé, ça pose plus un homme.
Hey, il avait raison, hein. Illico presto, je l'ai enlevé. Et puis tant pis si je trahis le prolétariat. Après tout, Jean Jaurès, il n'en portait pas. Hein.
Dans la rue, désormais, on se retournait sur mon passage. Une si belle moustache, bien noire, impeccablement taillée, sans avoir à l'entretenir. J'en étais pas peu fier. On me saluait comme jamais, à croire qu'elle renvoyait de moi une image qui dépassait ma simple personne. Comme si, avec cette moustache, une célébrité s'était réincarnée en moi.
Bravo ! Il en faudrait plus, des comme vous.
L'interpellation me prit au dépourvu. Depuis peu, je suscitais des réactions d'encouragement. Des hommes me glissaient que, s'ils tenaient qu'à eux, hein, qu'ils n'avaient pas mon courage parce que, vous savez bien, enfin... Mais si un jour la situation se retourne, hein, on se comprend, hein. Sauf que moi, je comprenais rien à leur sous-entendu.
Fier d'arborer un tel attribut, oh, je l'étais à coup sûr. Entre les nouvelles barbes de 3 jours des présentateurs télé et celles entretenues par des artistes capilliculteurs dans des barbershops New York, je faisais la différence, c'est vrai. Mais où donc était le courage? Il aurait suffi que me pousse cette pilosité pour que je devienne tout autre. Pourtant, il ne me semblait pas avoir changé. À la boucherie, j'étais restée fidèle à mes côtelettes d'agneau, à la charcuterie, j'alternais, pâté en croûte et chipolata. Et le dimanche au marché, je prenais toujours des cornes de gazelle à Fadila. Même si je voyais bien qu'elle me servait avec moins d'entrain qu'avant. Allez savoir pourquoi. Son sourire si franc avait fait place à une grimace polie. Où était le problème avec ma moustache en brosse à dents? Pour qui me prenait-on? Pour qui me prenait-elle? Singulièrement, si certains me saluaient avec chaleur, appuyant d'un mot d'approbation leur bonjour, d'autres, d'anciens camarades d'atelier en particulier, que je saluais toujours, me battaient froid. Je ne voyais pas pourquoi. Que leur avais-je fait? Si j'avais pris mes distances avec ce que mon paternel m'avait inculqué, je le leur devais. Je suis resté fier d'être français. Mais la solidarité ouvrière a balayé le rejet des métèques et autres rastaquaires. J'ai jeté aux orties travail, famille, patrie. Liberté, égalité, fraternité, c'est tout de même plus fun. Demandez à Fadila. Elle vient d'Iran.
Il a bien fallu, un jour, que je demande à Maurice ce qu'il avait à me ghoster. Un mot appris de ma petite fille qui, en passant, je trouve trop accro aux réseaux sociaux, mais bon. J'en avais marre, je voulais comprendre.
Hey, tu t'es regardé?
Comment ça?
Avec ta brosse sous le pif, tu t'es vu? Maréchal, nous voilà.
Estomaqué et blessé, je le presse. Qu'est-ce que tu veux dire?
Mais c'est pas vrai. Tu t'es vraiment pas demandé pourquoi des connards qui veulent toujours plus de Robocop dans la rue, ils te font des salamalek? Mais c'est Arzo.
Arzo. Et là, la révélation. Comment j'ai pu être aussi con, aveuglé par la fierté? Comme si ce n'était pas évident, la moustache, le front dégagé, le regard droit. Hitler? Merde! Je débrouille des excuses à la con, je lui explique que la moustache, elle m'est venue comme ça, toute seule, en une nuit, sans crier gare. Ensuite, les amabilités, des commerçants, tout ça...
Essaye de la raser, parce que là...
Ce que je fais en rentrant dardard chez moi. Mais le lendemain, au réveil... Merde. Elle a repoussé. Identique à elle-même. Le surlendemain... Itou. Et encore. Je n'ose plus sortir... Pas envie de croiser ceux qui conjecturent chez moi une proximité avec l'idéologie du Troisième Reich. Encore moins d'avoir à soutenir les regards désapprobateurs de mes vieux potes. Et j'aimerais tant retrouver le sourire léger de Fadila.
À force de me morfondre, j'ai eu un coup de génie. Un chapeau melon. Ouais. Et des mèches qui s'en échappent, une canne souple et hop là, le tour est joué. Dans la rue, en voyant ma dégaine, les gamins se marrent. Les accros aux écrans décrochent de leur smartphone. Et les bleus auxquels je réserve des dandinements bouffons n'osent pas me dire de circuler. Non, La peur du ridicule. La boulangère, toujours aussi commerçante, me félicite pour mon nouveau look. Et je sirote tranquille le pastis au chin avec les camarades qui m'ont retrouvé. Et le dimanche, je redouble de pitrerie pour Fadila qui a tenu à me faire découvrir sa pastilla. Oh, une merveille. Tiens, par contre, il y en a d'autres qui me saluent plus. Ah, allez savoir pourquoi.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
C'était Monsieur M, une musique extraite du CD « Musique pour conte étrange » de Pierre Zimmer, qui illustrait « Fierté » de Philippe Leroyer. La deuxième nouvelle que nous vous proposons est sortie de l'imagination d'un auteur que nous n'avons plus besoin de vous présenter. Je veux parler de Benoît Fourchard et je profite de cette antenne pour vous conseiller la lecture de « Jours de chasse » son roman pour adolescents, édité par les éditions Seuil Jeunesse. Mais aujourd'hui, c'est sa nouvelle « The Sound of Silence » que vous allez entendre, accompagnée évidemment par la musique de Simon & Garfunkel, « The Sound of Silence ».
La ruelle est calme. Le boulevard est calme. La ville est calme. La nuit est calme. Le monde est calme. Calme comme jamais. Ni voiture, ni passant, ni camion poubelle, ni vocifération, ni rien. Pas le moindre aboiement. Ni même la résonance particulière de talons qui claquent sur le trottoir.
The sound of silence,
a dit le père. Jamais avare d'un bon mot, toujours prêt à désamorcer toute situation dramatique. Comme elle n'a pas compris où pouvait se nicher cette fois-ci la blague paternelle, il a pris un air très sérieux, lugubre même, et a juste dit
« Non, c'est une chanson, ma fille, rien qu'une chanson. »
Ah, autrement dit, c'est pas spécialement marrant.
Ben non. Tu vois, ton père, il est pas toujours drôle. D'ailleurs... L'heure est-elle vraiment à la rigolade ?
Elle est assise sur le bord de la fenêtre. Une place abandonnée depuis longtemps. Faut dire qu'elle est grande à présent. Elle est au collège. Enfin, jusqu'à il y a encore quelques semaines. Parce qu'aujourd'hui, l'univers se résume à l'appartement. Déambulation de la chambre au salon, du salon... à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain, et retour à la chambre. Partage de cet espace de 70 mètres carrés avec son frère et ses parents. Impression d'y tourner en rond. Croiser constamment son père, présent du matin au soir comme on n'avait jamais vu ça, et de moins en moins marrant. Et chaque jour... Attendre l'heure de permission et sa balade dans le quartier, autorisation bien en main, au cas où.
Alors, de cette place qu'elle retrouve ce soir à sa fenêtre, avec un mélange de nostalgie et de sérénité, elle se dit qu'elle aurait eu très envie de chérir cette adolescence et toutes ses promesses. La voilà pourtant qui replonge dans ses jeunes années. Lorsqu'à cette même place, pendant des heures, elle guettait le ciel espérant qu'ils viennent la chercher. De cette époque si lointaine, c'est surtout l'insouciance qu'elle voudrait retrouver. Elle se dit que parfois, elle aurait aimé y rester, à jamais, ne pas avoir à grandir. Et là, avec cette nuit si tranquille, elle serait même prête à y retourner. Ou plutôt, elle se prend à espérer que ce silence pourrait peut-être lui permettre de retrouver la légèreté de son enfance.
Alors elle se penche vers sa droite. Le boulevard est désert, un désert à l'infini. Dans la ruelle en bas, même pas un rat. En face de sa fenêtre, il y a toujours ce mur gris. Il faut qu'elle lève la tête très haut si elle veut apercevoir un bout de ciel. Ah, ce soir il est clair et étoilé. Avec un quartier de lune caressueuse glissée entre les bâtiments. Des ombres se découpent sur le trottoir, le lampadaire, le panneau sans interdit, la poubelle des voisins. Ombre immobile.
Et surtout, ce silence absolu. Un silence sans la moindre trace humaine. Un silence comme la promesse d'un autre monde. Elle pense à son père et son Sound of Silence et continue à regarder la rue figée. Soudain, au loin, sur la chaussée, une silhouette, puis une autre, et une autre. Elle écarquille les yeux, n'y croit pas. Puis y croit. Une biche, son fan, et plus loin un cerf. D'autres images de l'enfance surgissent. Voilà d'autres animaux. Une ribambelle de marcassins à la queue leu-leu, sautillant d'un même mouvement. Et des blaireaux, belettes, castors et ragondins. Elle a envie de rire et d'applaudir. Toutes ces bestioles sont en train de reconquérir leur territoire perdu. Elle s'approche, entoure son immeuble, lève la tête vers sa fenêtre, vers elle, la regarde. Elle a bien envie d'appeler ses parents et son frangin, partager avec eux cette vision insolite. Lorsqu'apparaît une autre ombre, là, juste à côté des poubelles. Une ombre humaine.
Une ombre inattendue. Et pourtant tellement attendue, lorsqu'elle était petite, une ombre qu'elle reconnaît illico et qui ne semble pas spécialement inquiéter les animaux. Cette ombre, qu'il va bien finir par venir récupérer, c'est le moment ou jamais, se dit-elle. Lorsqu'elle avait 6 ou 7 ans assise au même endroit, elle pouvait passer des heures à l'entendre. Elle se tord encore un peu plus le cou pour tenter d'apercevoir le ciel. Comment va-t-il venir? Grâce aux 3 mâts du capitaine, en volant, lui prendra-t-il la main? Saura-t-elle battre les bras suffisamment fort pour s'envoler? Parviendra-t-elle à sauver les enfants perdus et à libérer Lily la tigresse? Elle veut y croire. Il ne s'est jamais pointé lorsqu'elle était petite, mais rien ne dit qu'en ces temps perturbés, où tout semble possible, au milieu de ce Sound of Silence, en ce drôle de jour de printemps, jour bancal, jour à part, il va enfin se décider à venir la chercher. Et après avoir retrouvé son ombre, il l'emmènera au pays imaginaire.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Au loin, un bourdonnement. Son sifflement joyeux, reconnaissable entre mille. Le bruit du vent dans les haubans de la frégate du capitaine. Le battement frénétique des ailes de la fée insolente. Ou un vol de cigogne. Le son se rapproche.
Narrow streets of cobblestone.
lune emplit le ciel et la ville désertée devient quasiment assourdissant. Et les animaux s'enfuient. L'ombre disparaît. Elle tend le cou et dans le petit bout de ciel étoilé, entre les masses sombres des immeubles, il passe à toute vitesse, dans un bruit insupportable. Les trois hélicoptères rouges et blancs, des pompiers.
10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
Qu'il est difficile de reprendre la parole derrière une chanson pareille. La dernière nouvelle que nous allons vous lire est de William X. Braya. William X. Braya, c'est une des surprises qui arrivent quand on édite des textes comme nous. C'est quelqu'un qui nous a envoyé comment, sur quelle recommandation, on ne sait pas. Un texte dans le précédent livre que nous avions fait, Meurtre sans façon, pardon. Si on regarde la fiche Babelio de William X. Braya, il est marqué « William X. Braya est dompteur de livres en bibliothèque et auteur de polars. » Il est le créateur d'une série humoristique policière. Il a toujours un peu d'humour et beaucoup de noirceur dans son travail, comme en atteste la nouvelle que nous allons vous lire. Le dernier mot. Cela, Clara venait de prononcer un mot, après des jours de silence. 3 ans qu'elle luttait contre un cancer. Stade terminal. Plus d'espoir, juste les soins palliatifs et le luxe de mourir chez elle, entourée des siens. Lisa, sa fille, avait entendu le mot au moment précis où Richard avait ouvert la porte de la chambre.
« Tu es encore tombé ?»
demanda Lisa en voyant son père tout crotté.
« Ouais, j'ai glissé à cause de l'herbe humide. »
Malgré ses 67 ans, Richard gardait l'allure d'un jeune homme.
« T'avais ton téléphone ?»
Il fit non de la tête. Lisa leva les yeux au ciel. Chaque jour passé chez ses parents lui donnait l'impression que les rôles étaient inversés. Elle avait déjà 2 gamins et ça l'occupait bien. Mathias, rentré en 5e, Élise au CP. Ils étaient chez leur père. Ce que Lisa pensait de son ex se résumait aux derniers mots prononcés par sa mère. Salaud.
Lisa retrouva Richard sur la terrasse. Il avait pris une douche, enfilé un vieux jogging et buvait une bière. Quelques décennies plus tôt, Richard était tombé sous le charme de la région. Clara avait partagé cet élan adorant se promener sur les berges de l'Aveyron où elle y dérangeait un héron perché sur la cime des arbres. Lisa approcha de son père et leva les yeux sur Najak. Le bourg médiéval s'étirait le long d'une arête rocheuse.
Ah, tu devrais appeler Mathias et Élise avant qu'ils soient couchés.
Lisa hocha la tête puis posa un regard tendre sur son père. Elle l'adorait. Plus jeune, elle avait été jalouse de sa mère. Mais elle devait le reconnaître, ses parents formaient un beau couple. Elle se souvenait d'une seule vraie dispute entre eux. Elle avait 18 ans. C'était l'année de son Erasmus. Revenue pour les vacances, elle était tombée en plein orage. Clara exigeant que son mari choisisse entre elle et l'Allemagne. Richard, alors responsable de l'innovation pour un groupe biomédical, partageait son temps entre Paris et Hambourg.
Depuis qu'elle était malade, Clara n'épargnait pas Richard, mais il restait à son chevet, sans broncher. En 3 ans, il n'avait quitté la maison qu'une seule fois, au printemps, pour un séjour à Paris.
Tu as entendu ce qu'a dit maman quand tu es arrivé dans la chambre ?
Richard secouait la tête.
Elle a dit « salaud ».
Salaud ?
Oui, salaud, comme connard, méchant, mauvais, charogne.
Quand Lisa avait quelque chose à dire, elle n'y allait pas par 4 chemins. Et parfois, c'était du brutal.
Elle a dû me prendre pour son père. Il y a des moments où elle se mélange les pinceaux. Tu sais, elle me gronde en pensant que je suis ton grand-père. Elle le détestait. Un Italien du sud de la vieille école. Ouais, il supportait pas qu'elle fréquente les garçons, d'ailleurs, il ne m'aimait pas. Ouais, j'étais sans doute trop déconstruit à ses yeux. C'est comme ça que vous dites, non, maintenant ?
Lisa sourit.
Ouais, il a boycotté notre mariage. Il est mort 5 ans plus tard et ta mère a refusé d'aller à son enterrement. Clara peut se montrer très rancunière, hein. Elle t'a manifestement hérité du sale caractère familial.
Salaud.
Le lendemain, Lisa se leva à l'aube et emprunta le chemin que sa mère aimait tant, le long de la rivière. Elle ne trouva pas le héron. Elle monta jusqu'au village, acheta de la fougasse, prit un café et repensa à un événement de la veille. Aux alentours de 23 heures, elle avait entendu son père discuter en allemand au téléphone. Lisa ne comprenait pas cette langue, mais elle avait perçu dans la voix de Richard des intonations tristes et graves. De retour à la maison, son père avait une mauvaise mine.
Ça va ?
Ouais, je te dirai ça après avoir bu mon café.
C'est maman ?
Non, j'ai mal dormi.
C'est à cause de ce qui va se passer après ?
Après quoi ?
Bah, tu le sais très bien.
Et ta mère n'est pas encore morte, hein ?
Pourquoi maman t'en veut ?
Mais qu'est-ce que t'as ce matin à me poser toutes ces questions ?
À qui tu parles, le soir ?
Richard passait un gant sur le visage de sa femme. Il aimait encore ce visage. Même si la maladie l'avait creusé. Clara le fixait de ses yeux vides. Quand il eut fini, il sortit de la chambre, passa devant sa fille comme un fantôme. L'ambiance s'était rafraîchie. La porte d'entrée claqua. Elle se dirigea vers la chambre d'amis où son père dormait depuis le début des soins palliatifs. Comme elle s'y attendait, son père était parti sans son téléphone. Elle en profita pour consulter les derniers appels. Le préfixe 49, toujours le même numéro en Allemagne, elle l'appela. Une voix féminine répondit. Elle raccrocha le cœur palpitant. Le téléphone sonna. Elle ne répondit pas. Elle fouilla dans la chambre de son père et tomba sur une chemise cartonnée au fond d'un tiroir de photos. Une jeune femme resplendissante, une gravure de mode. Pour le déjeuner, Lisa avait préparé une truffade. Elle avait ouvert un marsillac. Se sentant d'humeur exécrable, elle s'en était servi un grand verre et avait bu cul sec. Quand son père arriva, la bouteille était déjà bien entamée. Sans un mot, elle balança les photos sur la table.
« C'est qui, cette pute ?»«
Tu trouvais ça ?»«
Dans ta garçonnière. » »«
Tu devrais pas fouiller dans les affaires des autres, ma chérie. Et puis c'est pas une pute. »«
Alors, qui est-ce ?»«
Jessie, ta demi-sœur. » Ces derniers jours, j'ai été plusieurs fois au téléphone avec Anna, sa mère.
Il s'arrêta, envahi par un trouble. Ses yeux s'embrumèrent. Il prit quelques secondes pour se ressaisir.
Jessie est morte au printemps. Un accident de voiture. Je suis allé à son enterrement, j'étais pas à Paris mais en Allemagne. Et d'ailleurs ta mère ne voulait pas que j'y aille.
Comment ça ? Maman est au courant ?
Oui, je lui ai promis de rien te dire.
Lisa se moquait de la promesse faite à sa mère. Elle voulait savoir. Son père lui expliqua que pendant son année en Erasmus, ça n'allait pas fort entre Clara et lui. Il n'était jamais à la maison et sa mère se sentait seule. Elle s'était amourachée d'un de ses collègues de travail. Richard avait perdu les pédales et avait fauté à son tour avec une jeune collaboratrice en Allemagne, Anna. Il est arrivé ce qui était arrivé, Jessie. Avec Clara, il avait pu recoller les morceaux, mais elle n'avait jamais accepté l'existence de Jessie.
Tu vas tout lui mettre sur le dos, c'est ça ?
Richard secouait la tête, puis il baissa les yeux.
Non, je l'accompagne juste au mieux dans ces derniers moments. J'essaye d'être présent pour Anna. Elle va pas bien depuis la mort de Jessie.
Lisa ne savait plus si elle était furieuse ou bouleversée par les révélations de son père. Peut-être les deux.
Et tu vas la retrouver quand maman ne sera plus là ?
Ne dis pas de sottises. Il y a quelques semaines, je lui ai demandé ce qu'elle retiendrait de moi. Elle a répondu « Jessie, espèce de salaud. »
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Vous venez d'entendre Madiva de Didier Lockwood. Les trois nouvelles que nous avons eu le plaisir de lire aujourd'hui sont extraites du nouvel ouvrage collectif des Refusés. Son titre en est « L'inattendu ». L'inattendu comme le thème proposé aux écrivains des nouvelles et aux autres artistes, peintres, photographes qui ont composé le sommaire. La couverture a été réalisée par le peintre Sébastien Montag. Et si vous voulez vous les procurer, envoyez un petit message à l'adresse mail lesrefusés, tout attaché bien sûr, lesrefusés@free.fr.
Nous avons également réimprimé le livre collectif « Meurtre sans façon », où la contrainte pour les auteurs était de raconter un meurtre en exactement 100 mots. Les artistes, très nombreux, avaient eu pour consigne de donner une image évoquant la mort. Je laisse John vous lire la nouvelle qui se trouve en quatrième de couverture.
On m'appelle le tueur aux 100 victimes. Un jour d'automne, j'ai acheté un petit livre collectif d'écrivant 100 meurtres. Chaque auteur devait décrire en 100 mots dans une image un meurtre, exprimer l'essence même de la nature humaine, l'instinct de mort. Ce fut une révélation. Je venais de trouver non seulement une raison de vivre, mais un manuel à suivre, un mode d'emploi. Et c'est ainsi que je deviens le plagiaire de monstres sortis de l'imaginaire de braves gens ordinaires. Monsieur le juge, je ne suis nullement responsable des meurtres dont on m'accuse. Non, non, non. Les coupables, ce sont eux. Ce sont eux, monsieur le juge.
Eh bien, vient le moment de vous dire au revoir à tous. Et toutes. Et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Hop, 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 hop.